On m'a donné le signal d'envoi. Donc, bienvenue, merci d'être venu ou revenu aussi nombreux. Il y a encore quelques sièges vides, mais je trouve que comment vous avez fait un bel effort compte tenu de l'ensoleillement de la journée. Merci donc d'être venu, revenu pour cette troisième séance du cycle Ville de demain. Qui a été lancé à l'initiative de l'agglomération de la communauté d'agglomération de Poitiers, avec le soutien du Conseil de développement responsable, représenté ici par Virginie Offroy, que je salue au passage, et puis n'en déplaise à Yves-Jean, en rappelant que Yves-Jean en fait également partie et il nous fait la gentillesse de participer à cette troisième séance, et conjointement avec l'Espace Mendès France, représenté ici par Anne Bonnefoy, je ne sais pas, ah voilà, et que je salue et remercie pour son accompagnement depuis le début, et ce qui me facilite grandement la tâche. Alors, avant de présenter notre intervenant et le thème de la soirée, je tiens à rappeler à l'intention de celles et de ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, d'ailleurs je leur demanderai tout simplement de lever la main. Ah bah voilà, ah bah bienvenue. Et à l'intention de celles et de ceux qui n'auraient pas assisté à toutes les conférences, je rappelle que ce cycle a été inauguré par un géographe, Jacques Lévy, qui nous a conviés à une sorte de tour du monde, pour nous rendre compte d'un phénomène qui passe encore inaperçu, mais qui est très important à ses yeux, à savoir la renaissance des villes, le regain d'intérêt pour les villes au sens de ville-centre, et ce, à travers le monde. Et il nous a montré comment aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Océanie, il y avait un regain d'intérêt qui se manifestait notamment aux États-Unis par ce que l'on appelle le New Urbanism, un urbanisme inspiré pour prou de l'urbanisme européen, de la ville européenne telle qu'on la conçoit ordinairement, avec des rues piétonnes, un centre-ville, etc. Et ce que j'ai relevé entre parenthèses, je le signale en passant, c'est l'un des motifs, un des facteurs qu'il avait mis en avant pour expliquer ce regain d'intérêt pour la ville, à savoir le rôle des migrants, et notamment des migrants asiatiques, qui, que ce soit aux États-Unis, en Asie, ou en Océanie, ou au Canada, pour reprendre les exemples de Jacques Lévy, reproduisaient leur modèle de ville, leur conception de la ville, qui étaient très marqués, disait Jacques Lévy, par leur expérience de la densité, y compris dans les zones rurales. Et je crois que c'est un détail qui a son importance et qui vaut d'être rappelé, parce qu'il montre l'importance des facteurs proprement humains, proprement sociaux, dans les dynamiques urbaines, qui ne sont pas qu'une histoire d'infrastructure, de morphologie. Nous avons, au cours de la deuxième séance, pris quelque part le contre-pied de l'analyse, du diagnostic et des réflexions de Jacques Lévy, avec Martin Vanier, un autre géographe qui nous venait de Grenoble. Alors, contre-pied en ce sens que Martin Vanier s'est attaché à rendre compte du phénomène de périurbanisation, qui semble être justement le contraire de ce retour vers la ville, etc., que nous décrivait Jacques Lévy. Mais Martin Vanier, de manière, ma foi, très convaincante, nous montrait non seulement la force de ce phénomène de périurbanisation, mais aussi son potentiel. Il ne se réduit pas forcément au phénomène d'étalement urbain qui suggère une ville qui s'étalerait sans se soucier de ses territoires périphériques. Non, la périurbanisation est quelque chose qui se nourrit de toutes sortes de facteurs et qu'il faut prendre en compte. Et entre parenthèses, j'ai beaucoup apprécié ce que Martin Vanier a dit en passant, à savoir que si les préoccupations autour de l'épuisement des ressources fossiles interrogent sur ces villes auxquelles qui requièrent pour ces mobilités la voiture, la perspective de la voiture électrique pouvait peut-être redonner sens à cette périurbanisation et finalement rendre le scénario catastrophe moins catastrophique qu'on ne le suggère. Alors, ce soir, ce que nous vous proposons, c'est de poursuivre la réflexion sur l'urbanisation, ses conséquences, avec Julien Damon, alors qui est professeur associé à Sciences Po. Alors, je m'empresse de préciser, malheureusement pour lui, le Sciences Po de Paris, parce que j'ai, pour ma part, pris le soin de visiter les locaux de Sciences Po de Poitiers, et ma foi, ils sont quand même beaucoup plus chics que ceux de la rue Saint-Guillaume. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est la même maison. C'est la même maison, voilà. Oui, c'est une antenne, c'est ça. Et alors, Julien Damon, qui est connu aussi pour tous ses travaux, ses réflexions sur les phénomènes d'exclusion sociale, notamment dans l'univers urbain. Alors, c'est pas tout à fait à ce titre qu'on l'a sollicité, c'est au titre de l'enquête internationale qu'il a menée, animée, et dont il a rendu compte des résultats dans cet ouvrage, « Vivre en ville », paru l'année passée, en 2008. Et ouvrage qui apparemment aborde un sujet qui ne concerne pas Poitiers et son agglomération, puisque l'ouvrage revient notamment sur les phénomènes de bidonvillisation. Ça va aussi, voilà pour vous. Et un phénomène qui, Dieu merci, ne concerne pas l'agglomération de Poitiers. Mais votre enquête ne se limite pas à ça, c'est aussi une réflexion sur la ville durable, sur les possibilités d'une ville durable, qui se nourrit des résultats de l'enquête que vous avez effectuée auprès de citadins de plusieurs métropoles du monde. Et vous allez nous dire ce qui ressort de cette enquête, la vision qu'ont ces citadins de la ville durable, et on s'efforcera de voir dans quelle mesure on peut aller dans le sens de cette ville durable à l'échelle d'une agglomération de Poitiers. Et on le fera à travers les questions de la salle, car le public, venu nombreux, et je l'en remercie, aura bien évidemment voix au chapitre. Auparavant, je tiens à remercier la personne qui est à mes côtés, ainsi que sa collègue, qui va assurer en live la traduction en langage de signes des propos de Julien Damon ainsi que de vos questions. Mais par souci, j'allais dire, d'économie, c'est pas tout à fait le bon terme, mais à sa demande, je voulais savoir si parmi vous il y a des personnes sourdes et qui auraient effectivement besoin de cette traduction en langage de signes. Si tel n'était pas le cas, s'il n'y avait pas de sourds parmi vous, on pourrait peut-être soulager notre ami ainsi que sa collègue. Mais auparavant, assurons-nous, sachant que quand bien même il n'y aurait qu'un sourd ou une sourde dans cette salle, eh bien, on veillerait à ce qu'elle puisse entendre les paroles de Julien Damon et intervenir à l'occasion des questions de la salle. Y a-t-il des sourds? Non. Bien, vous en tirerez les conclusions, vous resterez ici pour traduire si vous le souhaitez et nous faire part de votre connaissance de termes aussi compliqués que bidonvillisation ou périurbanisation dont il sera sans doute question. Trêve de plaisantation, la parole à Julien Damon pour une intervention extrêmement bien illustrée, comme j'ai pu le constater. Une présentation d'une heure pour ménager le temps, le plus de temps possible aux questions avec la salle. Par avance, merci Julien.
J'ai en effet beaucoup de choses à vous dire et je l'ai organisé à partir d'une présentation PowerPoint qui contient, ça risque de vous assommer, donc je vous préviens d'avance, beaucoup de graphiques et beaucoup de chiffres. Et surtout, entre trois tableaux et deux graphiques, quand vous en aurez assez, de temps en temps, des images déformées du monde, déformées par les phénomènes d'inégalité, de pauvreté ou d'urbanisation. Donc, je vous préviens, notamment au fond de la salle, si vous voyez pas ce qu'il y a dans le comme contenu des tableaux et des graphiques, c'est pas bien grave. En revanche, je pense que même du fond de la salle, vous verrez combien le monde peut être déformé aujourd'hui par le phénomène d'urbanisation et ses conséquences. Revoyant ma présentation dans le train, je me suis aperçu que ça débutait par une formidable faute d'orthographe, ou au moins de français, et je me suis dit que j'allais la conserver parce qu'elle avait un certain sens. Vous voyez que dans le titre que j'ai conservé, il y a la ville durable au singulier et les bidonvilles au pluriel. Alors, c'est pas pour faire le malin pour dire qu'il y a plusieurs formes de bidonvilles et une forme mythique de ville durable, mais presque. Vous allez voir que la question derrière ce néologisme que l'on a même cherché à traduire en langage des signes de bidonvillisation est quelque chose d'absolument crucial. Le thème de mon exposé, c'est pas la ville en général, c'est pas le retour des villes à la Jacques Lévy, qui certainement a dû vous fasciner en vous faisant son panorama, c'est la question du monde. Et vous allez voir que je vais vous parler de notre belle planète qui, avec ses mécanismes d'urbanisation, rencontre quelques difficultés, mais également quelques perspectives heureuses. Alors j'ai préparé un programme très copieux, qui évidemment va tenir en une heure, et j'espère qu'il ne sera pas trop indigeste. Tout d'abord, j'insisterai sur les évolutions démographiques en cours dans le monde. Alors, il y a quelques petits trucs que vous connaissez peut-être pas parfaitement, sur lesquels j'insisterai et qui, je l'espère, vous surprendront ou à tout le moins vous rendront un peu plus savant sur ces dossiers, sachant que ce que j'avance ici, c'est simplement des statistiques agrégées des instituts nationaux de production d'analyse démographique. Je vous dirai en matière d'urbanisation ce que sont les tendances contrastées selon les différents continents, et je mettrai l'accent sur ce phénomène majeur qui est, je l'ai baptisé ainsi, la bidonvillisation. Bon, le suspense ne plane pas trop, hein, on comprend de quoi il en retourne. Je m'appuierai sur les données d'enquête dont Sylvain Allemand a dit un mot, enquête réalisée il y a maintenant un an et demi dans 14 grandes villes dans le monde, de Shanghai à New York, en passant par Sydney ou Alexandrie, pour montrer combien les personnes qui vivent en ville finalement ont une image bien positive de la ville en général. C'est assez surprenant quand on a, surtout en France, un certain tropisme anti-ville, anti-urbain. Et puis, avec là cette fois-ci en quatrième partie, des informations et des petits schémas bien bureaucratiques, je vous donnerai des informations mondiales, européennes et françaises sur nos préoccupations environnementales rattachées à la problématique des villes, et je vous montrerai quelques analyses européennes sur le classement des villes. Et hélas, dans toutes les données dont on peut disposer, notamment dans les bases de données européennes, je n'ai pas trouvé Poitiers, mais j'ai trouvé Rennes. Voilà, vous m'en excuserez. Mais pourtant, j'ai bien cherché, parce que je suis un bon petit gars. Alors, sur les évolutions démographiques, vous voyez, c'est écrit en gros, on arrive à voir dans le fond. Là, ça va commencer à être plus terrible, mais au moins, ce que vous voyez dans le fond, c'est l'essentiel, c'est que vous avez deux courbes qui se croisent. Quelles sont ces deux courbes? C'est en bleu, ici, la part de la population mondiale vivant en ville, et l'autre courbe, naturellement, la part de la population mondiale vivant en zone rurale. Vous avez ici, de 1950 à 2000, des rétrospectives qui sont difficilement discutables, enfin en tout état de cause qui sont moins discutables que ce qui est sur la deuxième partie de l'axe des abscisses ici, c'est-à-dire des projections à l'horizon 2050. Qu'est-ce qui est à noter? C'est que l'an dernier, nous avons connu une rupture majeure dans l'histoire de l'humanité. Alors j'ai presque pris des trémolos dans la voix, qui sont discutables d'un point de vue statistique. Mais en tout état de cause, l'ONU a affiché qu'en 2008, nous sommes passés d'une population humaine qui était majoritairement rurale à une population humaine qui devenait majoritairement urbaine. Ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on entend par l'urbain, c'est pas exactement la même chose dans tous les pays. Qu'est-ce qu'un urbain en France? C'est quelqu'un qui vit dans un ménage qui est implanté, ça veut dire en fait qui vit dans un logement contenu dans un espace de plus de 2000 habitants où chacune des habitations n'est pas distante de plus de 100 mètres les unes des autres. Oh, c'est INSEE, mais c'est carré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sont urbains les personnes qui vivent à peu près à 2000. Voilà. Hein. Vous prenez une définition australienne, sont urbaines les personnes qui vivent à 50 000. Donc L'agrégation, c'est-à-dire la somme de toutes ces informations au niveau ONU, donne une image quand même assez floue de ce qu'est exactement l'urbain. Mais les dynamiques sont extrêmement claires. C'est ce que montre aussi notre courbe que je vous présenterai juste après. Quelques informations chiffrées pour vous donner une importance du phénomène et pour le qualifier. Qu'est-ce qui se passe pour que la population devienne plus urbaine, tant dans le Poitou qu'à l'échelle du monde, hein, il n'y a que trois possibilités. Il peut y avoir des migrations du rural vers l'urbain, ce qui a été traditionnellement l'alimentation la plus importante du phénomène d'urbanisation. Il y a la croissance naturelle, c'est-à-dire qu'il y a plus de naissances que de décès en ville, qui est aujourd'hui, à l'échelle mondiale, le principal facteur de la croissance urbaine. Et puis, il y a, dans le vocabulaire onusien, ce que l'on baptise la requalification d'établissements humains ruraux en établissements humains urbains. En clair, du rural qui devient de l'urbain par le phénomène que l'on baptise en Occident de périurbanisation. Ce qui est assez important, c'est que dans le monde, les villes progressent, non pas tant parce que les ruraux viennent s'y implanter, mais parce que les conditions de vie permettent qu'on y fasse des enfants et que les enfants y vivent. Deuxième série d'informations assez générales sur le monde, c'est que les villes ne représentent, leur espace géographique ne représente que 3% de la surface émergée de la planète. Comment on le sait ça? Ben, c'est grâce aux images satellites, et par ville on entend essentiellement ce qui est visible la nuit en termes lumineux. Par les projections dont je vous dirai un petit mot, il apparaît que si la population mondiale va augmenter, je vous en dirai un tout petit mot, dans les 50 prochaines années et même encore ensuite, la vitesse de cette augmentation sera plus importante encore pour ce qui concerne la population urbaine et la superficie du territoire, donc de la planète, qui est consacrée aux aires urbaines. Quand la population va augmenter de 75%, la superficie nécessaire pour y accueillir son urbanisation sera en proportion deux fois plus importante. 75% d'augmentation de la taille de l'humanité, 150% d'augmentation de la taille des villes. On devrait passer donc à plus de 6% du territoire de la planète consacré aux établissements urbains. Ceci étant principalement appelés à se développer dans les pays en développement. D'ailleurs, une incise simple sur laquelle j'insisterai, quand on parle d'urbanisation du monde et quand on parle d'urbanisation en général, pour les urbanistes en formation en France, les marchés, les activités seront dans le monde en développement, car c'est le monde en développement qui s'urbanise. La plupart des grands pays occidentaux, notamment, en tout cas la plupart des grands pays développés, si on y intègre la zone asiatique, le Japon singulièrement, ont quasi terminé leur urbanisation. Tout à l'heure, je vous ai présenté une petite courbe qui se croisait, c'est des proportions qui se croisaient. Ça, c'est la même courbe, mais avec les populations en volume. Vous aviez, en 1950, une population urbaine qui était de 800 millions d'habitants sur Terre, une population rurale qui était de près de 2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 3,5 milliards de ruraux, 3,5 milliards d'urbains. La population mondiale, à l'horizon 2050, devrait atteindre 9 milliards d'habitants. Mais ce qui est assez net dans ces projections, je vous dirai un mot sur les réserves que l'on peut avoir à l'égard des projections, nous avons une croissance linéaire de la population urbaine et nous avons une décroissance, le terme ne s'impose peut-être pas nécessairement, de la population rurale. La population rurale, qui est aujourd'hui donc à 3,5 milliards d'individus, pourrait être inférieure à 3 milliards d'individus en 2050. D'où des recompositions politiques, géographiques, économiques considérables, à l'œuvre naturellement au moment où je vous parle, et d'ici ces horizons qui sont de court terme, hein, pour la démographie, de 10, 20, 30 ou 40 ans. Alors, un petit mot pour dire quand même attention aux projections. Si sur le passé, avec des définitions variées qui, comme je vous l'ai dit, sont celles qui nous permettent d'avoir une information de plus en plus claire apportée notamment par les instances internationales et par l'ONU, les projections, c'est toujours sujet à caution. Pour le dire d'une manière simple, les enfants qui vont avoir 20 ans dans 19 ans, ils sont tous là. Sauf miracle génétique, un peu étrange. Maintenant, inversement, les enfants qui vont avoir 19 ans dans 20 ans, encore une fois, sauf miracle génétique, malheureux je pense en l'occurrence, il n'y en a aucun. Donc il y a de l'inertie avec les phénomènes démographiques, mais il y a également de gigantesques incertitudes. Donc là, ce que j'ai mis là, avec ces petites courbes donc invisibles au fond, c'est on part de 1950 et on va jusqu'à 2300. Donc les démographes font ça, alors ça prête à des débats, il y a des crépages de chignons scientifiques colossaux naturellement, est-ce qu'on a le droit de faire des choses pareilles? Ce qui est assez intéressant en termes de développement durable, c'est que si on raisonne à comportement démographique inchangé, c'est-à-dire que nous avons tendanciellement une baisse de la fécondité dans la mesure de l'enrichissement des nations, ce qui concerne également les pays en développement actuellement, mais si on prend les taux de fécondité et de mortalité actuels, en 2300, nous serions plus de 1500 milliards sur Terre. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est globalement invivable. Déjà qu'on se préoccupe de savoir si nous pouvons subvenir à nos besoins durablement sur Terre à 7 milliards, presque 7 milliards, et à horizon 2050 à 9 milliards d'habitants sur Terre. Chose intéressante, c'est quand on parle d'urbanisation du monde, on a souvent à l'esprit les méga-cités. Mégacité, c'est le terme employé par l'ONU pour décrire les agglomérations de plus de 10 millions d'habitants. Alors ça, ce ne sont plus des courbes, pour le fond de la salle, ce sont des camemberts. Nous sommes en 1950, à peu près aujourd'hui, et avec une projection en 2025. Et vous avez la répartition de la population urbaine selon, ou plutôt sa ventilation de la population urbaine, selon la taille des villes dans laquelle cette population se trouve. Et ce que l'on observe, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements de ces proportions, de cette ventilation, et que probablement nous sommes appelés à ne pas vivre de très grands changements. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la moitié de l'humanité urbaine a vécu la deuxième partie du XXe siècle et devrait vivre les 25 prochaines années, en tout cas les 15 prochaines années, dans des agglomérations urbaines de moins de 50 000 habitants. Ces gigantesques villes qui font frémir, sourire, rêver ou peur, eh bien, celles de 10 millions d'habitants ou plus, ne concentraient que 10% des urbains en 1950, et bon an, mal an, aujourd'hui et à horizon 2025, elles devraient continuer à conserver cette proportion d'urbains sans la dépasser. Maintenant, ça, ce sont des proportions. En volume, naturellement, vous avez des changements très importants. Ceci, à mon avis, est illisible au premier rang. C'est un tableau illisible, mais je vous le commente rapidement. Vous avez, en 1950, les villes qui, dans le monde, dépassaient plus de 10 millions d'habitants. Vous aviez New York et Tokyo. En 1975, s'y ajoutait Mexico. Aujourd'hui, on a une vingtaine de villes d'agglomération. Il faut dépasser les barrières administratives qui dans le monde dépassent 10 millions d'habitants, et à l'horizon 2025, avec les projections moyennes ONU, on arrive à une trentaine de villes qui dépasseraient la dizaine de millions d'habitants. Et on note en toute fin ici, alors pour le premier rang vous le voyez peut-être, pour le dernier je vous le dis, qu'apparaît Poitiers. Non, c'est Paris. Et Paris au sens du Grand Paris, c'est-à-dire à pourtour extrêmement élargi et quasi synonyme d'ailleurs d'Île-de-France en l'occurrence. J'ai ajouté dans le train deux cartes en plus, je l'avais dit à Sylvain qui me regarde de manière menaçante, mais en même temps je suis toujours à avoir un œil sur la montre. Je vous ai montré des courbes, je vous ai promis que je vous montrerai des cartes. Ça, c'est pas des cartes très originales, c'est l'Union européenne en 2000. Pour regarder deux choses, je vous montre la proportion des urbains, qui à la louche est dans l'Union européenne à une moyenne de 75% de la population qui vit en zone urbaine, ce qui correspond à peu près à la moyenne française. Vous avez des départements franciliens, Paris, Hauts-de-Seine et même Val-de-Marne qui sont considérés à 100% urbains, et le département le moins urbanisé en France à 24% d'urbains, c'est la Creuse. Ce que l'on observe, c'est que l'Europe est sa devise le dit, est unie dans la diversité. Et c'est vrai également en matière d'urbanisation, puisque vous le voyez, vous avez une partie de l'Angleterre, pour ne pas dire le Royaume-Uni, très pertinemment, qui est beaucoup plus urbanisée que la France, l'urbanisation française se concentrant dans ces grandes villes. L'urbanisation étant beaucoup plus diffuse, que ce soit dans des pays de tradition, d'organisation de la règle d'urbanisme plus libérale, comme le Royaume-Uni, ou plus interventionniste, à la fois dans quelques morceaux nord de l'Europe, sans que ce soit la Scandinavie, ou dans ce grand coin européen que sont les Pays-Bas, la Belgique. Ça, c'est la situation actuelle. voici la situation en tendance sur les 10 dernières années du XXe siècle. Vous avez plutôt une tendance française vue à cette échelle européenne de la stabilité, voire de la désurbanisation, quand dans d'autres contextes, espagnols en particulier que vous voyez ici, irlandais accompagnant le miracle économique irlandais qui s'est un peu effondré depuis, nous avons une urbanisation galopante. Pour qui passe des vacances ou un peu de temps au Portugal et en Espagne, on observe des villes qui sont constituées de grues et de chantiers. Quand on passe des vacances à Poitiers, à Paris, à Marseille ou à Pleumeur-Bodou, il y a moins de grues. Nous sommes donc un pays à urbanisation qui a été relativement tardive, mais qui s'est accélérée dans la deuxième partie du XXe siècle pour aujourd'hui, sans s'arrêter naturellement, être à une vitesse extrêmement lente. Voici mes petites cartes du monde. Là, vous reconnaissez, même au loin, ça ressemble à un globe que l'on a écrasé, qui est une présentation de l'urbanisation à partir d'une donnée assez originale qu'il a été difficile de produire. C'est la part de la population qui, sur les différents territoires qui apparaissent en différentes couleurs ici, se trouve à distance d'une ville de plus de 50 000 habitants, on va dire d'une grande ville sans être une méga-cité. Ce que l'on observe, au-delà du contraste mondial, comme d'habitude, c'est que maintenant, la moitié de la population mondiale vit à moins d'une heure de déplacement, quel que soit le mode de déplacement que l'on puisse prendre, à moins d'une heure d'une ville de plus de 50 000 habitants. Cette idée forte selon laquelle, et sur laquelle j'en reviendrai, nous sommes tous urbains, car de fait, nous sommes tous en contact quasi permanent avec un univers urbain dense et une morphologie urbaine de quasi grande ville, sans être une méga ville. Ce qui est intéressant aussi sur les contrastes internationaux, les contrastes du monde, c'est que vous avez quand même 10% des terriens qui sont encore, eux, situés à plus de 48 heures d'une grande ville. Par plus de 48 heures, il ne faut pas imaginer qu'ils n'ont que leurs pieds pour la locomotion, c'est qu'ils n'ont que les moyens de transport qui peuvent les amener par pied, par voiture, par ratraque, par charrette, si vous voulez, vers un aéroport qui peut les accompagner vers une ville de plus de 50 000 habitants. Mais ce que je vous montre là, c'est des choses qui ne vous étonneront pas, c'est que nous avons une Union européenne qui est, pour les chiffrages, à 75% urbaine par rapport aux définitions ONU, mais qui est totalement à une distance quasi nulle, puisque moins d'une heure de déplacement d'une ville de plus de 50 000 habitants. C'est vrai de la façade est des États-Unis, c'est vrai de la Californie, mais c'est pas vrai de l'ensemble des territoires américains qui vont du sud de l'Arizona, par exemple, ou encore de son nord-ouest. Et vous avez des territoires arides ou très froids au pôle, ou encore dans ces gigantesques territoires qui sont encore peu déflorés par l'ensemble de notre infrastructure et de nos réseaux de transport, comme en Australie, où vous avez des populations dont la vie peut être dite encore à dominante rurale, encore que c'est discutable. Je passe au deuxième point, en regardant l'heure, mais je suis sous le contrôle du maître du temps, je m'en sors bien, j'ai l'impression, je suis toujours dans mon petit marathon, car je vous l'avais dit, pas mal de choses à vous dire et à vous présenter pour informer, et après on pourra discuter. Je vais insister sur les contrastes selon les grandes zones géographiques du monde et sur ce phénomène qui me semble être le phénomène le plus marquant de l'urbanisation à venir. Celui de la croissance des bidonvilles. D'ailleurs, pour vous le dire en une phrase, d'une certaine mesure, l'urbanisation à venir, dans ses grandes masses, dans son volume, est quasi synonyme de bidonvillisation. La croissance urbaine sera essentiellement une croissance dans les pays du Sud, aux pays du Sud ou pays en développement, et cette croissance passera massivement par l'augmentation de la taille et parallèlement des problèmes des bidonvilles. Alors, je vous avais dit que même pour le fond de la salle, je vous présenterai des images un peu originales du monde. Au fond de la salle, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous ne voyez pas très bien ou parce que l'image serait floue. C'est bien le monde qui vous est présenté ici. On le reconnaît. Ça n'est pas une carte, c'est ce que l'on baptise maintenant en cartographie un cartogramme. Vous avez une représentation de chacun des territoires qui est déformée en fonction de la part de la population mondiale qui s'y trouve affectée par le phénomène que l'on reconnaît, hein, ou que l'on cherche à décrire. Donc vous avez une répartition de la proportion totale des urbains dans le monde selon leur localisation. Ça ne déforme pas totalement le monde, on le reconnaît relativement aisément. Les États-Unis, ce sont les mêmes. La France prend une part plus importante au sein de l'Union européenne. Chine et Inde ne sont pas totalement déformés. Vous avez simplement l'Afrique qui est le territoire le moins urbanisé, avec une toute petite partie de l'Asie, en particulier la péninsule indochinoise, qui est extrêmement peu urbanisée. La Terre est fondamentalement pas déformée actuellement par la part des urbains qui se trouvent sur les différents territoires. En revanche, elle est appelée à se déformer de manière croissante. Vous avez là, encore une fois, sous réserve et sous précaution, des multiples précautions qu'on doit prendre en matière d'utilisation des projections démographiques. Vous avez là la déformation de la Terre, la déformation de la représentation cartographique du globe en fonction de la croissance urbaine. Et vous voyez que, en matière de croissance urbaine, rattaché à la croissance démographique générale, l'Union européenne, sans disparaître totalement, devient quelque chose de relativement marginal dans le phénomène d'urbanisation, quand vous voyez croître considérablement Chine, Inde et le continent africain en général, son nord-ouest en particulier. Pour l'expliciter de manière plus rigoureuse et moins originale, moins visuelle, revenons à quelques camemberts de présentation et quelques chiffres qui donnent quelques informations très importantes à ces trois périodes que sont 1950, aujourd'hui 2008, aujourd'hui 2009 et après-demain 2050. La ventilation des urbains par continent, nous avions un tiers des urbains qui vivaient en Asie en 1950. Près de 2 personnes qui vivaient en ville sur 5 dans le monde vivaient en Europe. Aujourd'hui, on n'a plus que 15% des urbains qui sont européens. On a déjà la moitié des urbains qui vivent en Asie, là où les taux d'urbanisation ne sont pas encore très élevés et n'atteignent pas ce seuil de 50%. Pardon de vous assommer de chiffres ainsi. L'idée force à retenir de tout cela, hein, c'est que l'urbanisation sera un phénomène essentiellement africain et asiatique. La population urbaine asiatique pourrait augmenter 2 milliards d'habitants. Vous imaginez les marchés pour les constructeurs, les aménageurs, etc. Et pour le tourisme, c'est absolument formidable, avec des choses dingues qui vont de Dubaï et la richesse quasi insolente à ces bidonvilles qui s'étalent dans le pourtour des grandes villes de Shanghai à Johannesburg et Rio, sans ne rien dire de l'Afrique subsaharienne, sauf ayant cité une partie de l'Afrique du Sud. Et la population urbaine de l'Afrique, elle, sur une période d'une quarantaine d'années, c'est plus 1 milliard d'habitants. La population urbaine supplémentaire de la France sur la même période, à votre avis, c'est quoi? Sachant que, vous le savez, dans l'Union européenne, la France est un des seuls pays, est en tête de l'indice conjoncturel de fécondité. Bon, en fait, c'est probablement autour de zéro. Voilà. Un comportement démographique a changé, comportement d'urbanisation a changé. De fait, c'est ça. Quand l'Union européenne, d'ailleurs, voit ses villes se dépeupler, ou voit une partie de ses pays se dépeupler, et donc de ses villes se dépeupler, pour parler du sud de l'Italie, du nord-est de l'Allemagne, de tous les anciens Länder de l'Est, ou même d'une partie de la Pologne, nous sommes en phase de dépopulation dans certains coins européens, et donc en phase de désurbanisation, quand l'urbanisation, elle, a un rythme qui n'est pas aussi rapide que ce que l'on a pu connaître au XXe siècle, mais avec des volumes que l'on n'a jamais connus, est en phase de progression considérable dans le reste du monde, et ici on parle du monde du monde en développement. Venons-en au sujet le moins riant, même si je pense qu'il ne faut pas sombrer dans le misérabilisme et encore moins dans le défaitisme sur cette affaire, c'est la croissance des bidonvilles. Alors, pour ceux du fond de la salle, pardon, mais je déteste regarder les crobards comme ça, s'ils sont illisibles. Là, au moins pour les premiers rangs, je pense qu'ils sont à peu près compréhensibles. Vous avez une gradation de 1990 à 2020, et vous avez Le nombre de personnes vivant en bidonville, recensé ainsi par l'ONU, enfin par les agences de l'ONU qui s'occupent de ce dossier dans le monde. Donc vous aviez 750 millions de personnes vivant dans des bidonvilles en 1990. À l'horizon 2020, ce devrait être le double, 1,5 milliard d'habitants. Pour vous donner, alors j'arrête pas de vous donner plein de chiffres, donc je tente de les synthétiser. Hein. Nous sommes aujourd'hui 6,5 milliards sur Terre, à peu près. La moitié d'entre nous sommes urbain, selon cette diversité d'appréciation de l'urbain, et sur ce plus de 3 milliards d'habitants du monde qui sont urbains, vous avez actuellement plus d'un milliard d'habitants des bidonvilles. Un tiers des personnes qui vivent en ville, dans le monde, vivent dans ce que l'on baptise des bidonvilles. Et je suis content parce qu'il y a une logique dans mon exposé. Qu'est-ce donc qu'un bidonville ? Car nous en avons eu des définitions juridiques en France même, avec des politiques de résorption des îlots d'insalubrité et des bidonvilles, par des politiques dites de rénovation urbaine, prenant le même mot que ce qui est employé aujourd'hui pour la requalification des quartiers considérés comme sensibles. Donc dans les années 50 à 70, il y a une politique de résorption des bidonvilles à la française, mais la définition qui était prise n'était pas celle qui a été employée, qui a été forgée depuis, et qui est employé depuis par l'ONU, pour être considéré comme bidonville, un habitat doit avoir au moins une de ses caractéristiques, c'est-à-dire que c'est une habitation qui n'est pas durable, c'est-à-dire que physiquement elle ne peut pas durer plus d'une saison. Il y a un niveau de suroccupation qui est conséquent. On a des indices de surpeuplement ou de surpeuplement aggravé avec l'INSEE, en clair, pour un studio, si vous êtes à 3 dans un studio, il y a surpeuplement. Le surpeuplement qui est considéré comme se rapprochant de la définition des bidonvilles par l'ONU, c'est à peu près 7 personnes par studio. Vous voyez, on n'est pas sur les mêmes échelles. Sont considérés comme bidonvilles les habitats auxquels ne sont pas raccordés des réseaux d'eau potable ou des systèmes d'assainissement. Et puis, la cinquième élément de la définition, c'est la sécurité juridique, c'est des occupations soit de terrain, soit d'immobilier bâti en dur ou non sur ce terrain, sans contrat clair avec le propriétaire, que ce propriétaire soit une autorité publique ou un privé qui vous loue ou qui vous ait cédé ce terrain ou ce bâtiment. Je dis ceci parce que quand on parle des bidonvilles, on parle évidemment d'une hétérogénéité de situation, d'évolution historique en fonction des différents pays dans lesquels on les trouve. On est avec des estimations statistiques quand même, c'est vrai, par moments relèvent du 421 ou du jeu de hasard plutôt que de la rigueur que l'on pourrait souhaiter, notamment quand on remplit notre fiche d'impôt. Mais en tout état de cause, les définitions sont de plus en plus précises et la collecte de plus en plus rigoureuse. Donc ce que je vous dis, c'est pas des chiffres parfaits qui seraient valables à la centaine de millions près, mais une nouvelle fois, les tendances, c'est ce sur quoi j'insiste, sont nettes et inquiétantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je recommence avec mes petites cartes du monde déformées. Vous avez là la représentation déformée du monde selon la part de la population mondiale disposant d'un logement durable rapporté à la population nationale sur ce territoire. Il n'y a pas actuellement une déformation considérable, sinon encore une fois par le fait qu'il y a une part de la population habitant des logements non durables qui est particulièrement élevée au sud. Mais ça, il y a une explication sympathique à cela qui est très simple. Vous savez, un des meilleurs sociologues de la pauvreté, c'est Charles Aznavour, hein. La misère est moins pénible au soleil, et donc en effet, il n'est pas nécessaire de disposer d'une durabilité de l'habitat, et par durabilité, je n'entends pas là le terme de développement durable, mais simplement de solidité de l'habitat qui s'impose dans d'autres contrées. Les habitants des bidonvilles, 2001, le monde est quand même relativement déformé. Je précise ce pourquoi demeure l'Union européenne sur laquelle je pointe le pointeur là, c'est que les statistiques internationales sont des agrégations de statistiques nationales. Et donc la France, qui a du mal à dire combien elle a de personnes qui vivent en bidonville, apporte tout de même des informations, ce qui fait que la France demeure. La France, le reste de l'Union européenne, le reste des pays riches, mais vous voyez que l'essentiel des bidonvilles se concentre une nouvelle fois en Afrique, en Asie et singulièrement en Chine et en Inde. C'est un effet de structure très simple lié à la taille des populations. Si on prend d'autres sujet plus concret et plus attaché immédiatement à la gestion urbaine, eh bien voici là un monde totalement déformé. Si vous avez projeté cette première carte au tout départ, certains d'entre vous n'auraient pas reconnu immédiatement le monde, mais ça c'est bien le monde. C'est le cartogramme de la connexion à des égouts et des systèmes d'assainissement pour l'eau. Qu'est-ce que l'on observe? Ben, c'est que la part de la population africaine qui a accès à ces services de base est résiduelle. En clair, l'offre de services et l'organisation du service en Amérique latine, sinon un peu au Brésil, mais c'est lié à un effet de taille de la population, et en Afrique est nulle. Voilà. Par nul, c'est statistiquement nul. C'est pas une qualification, évidemment, de l'offre de service là-bas. Et c'est pour vous donner une idée, là, extrêmement nette, des divergences de situation. Ah, ça, c'est un chiffre qui est illisible au fond et certainement aussi au premier rang, mais qui est très important. Alors, c'est que vous avez là, d'un côté, une courbe qui augmente et là, une courbe qui baisse. Alors, en langage plus savant, on va dire qu'on a une corrélation positive ici et là, une corrélation négative. Qu'est-ce que l'on observe? On observe un point négatif. C'est qu'à mesure de l'augmentation de la population urbaine, on a une augmentation de la population vivant dans les bidonvilles. Mais il y a un aspect positif aussi à ces corrélations entre phénomènes, c'est que la part des bidonvilles baisse à mesure du taux d'urbanisation des pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la tendance à l'urbanisation va s'accompagner d'une bidonvillisation, pour prendre ce terme que j'ai employé et que j'aime bien d'ailleurs parce qu'il est très significatif, mais que l'on peut espérer de l'urbanisation à terme une stabilisation de la situation des personnes qui vivent dans ces bidonvilles. Ce que je suis en train de dire là, c'est que vous avez deux manières de voir les bidonvilles. Soit vous les voyez comme ce qu'il peut y avoir de pire dans la vie humaine et là, posément, dans la vie urbaine. Soit vous les voyez comme des sas vers la vie urbaine. Par urbaine, j'entends celle qui propose des aménités, des services, de la sécurité, de l'emploi, ce que vont chercher les ruraux lorsqu'ils vont s'implanter en ville, et parce qu'il passe aujourd'hui de plus en plus par ce sas dangereux, inqualifiable d'insalubrité dans bien des cas, qu'est le bidonville. Mais ce que j'ai dit là, en m'appuyant sur deux schémas illisibles, c'est que de toutes les manières, le monde est confronté à ce défi gigantesque de l'absorption de ces bidonvilles, mais que ça n'est surtout pas en imaginant repousser les gens qui s'y implantent vers d'autres zones que l'on trouvera des solutions à leurs difficultés. Et c'est plus probablement en aménageant de manière originale la vie dans ces bouts de ville que progressivement, par étalement urbain, requalification, ces bidonvilles pourront devenir des villes à part entière. Je vous fais part là d'une vision optimiste sur le dossier, mais que j'aime bien mettre au regard du défaitisme habituel que l'on a là-dessus. Oui, ça c'est tout bon, je vais le passer. C'est marrant, c'est parce que je vous parle de chiffres qui paraissent très sérieux. Et là, il y a des choses assez étonnantes. Dans le monde, hier, j'en parlais aussi à partir d'une étude Ernst & Young, vous avez les grands cabinets de conseil ou les grandes banques qui font des classements des villes selon différents sujets. Ça peut être la qualité de vie, j'y reviendrai, mais selon également les prix. Hein, pour savoir quelle est la ville la plus chère du monde. Et si vous prenez différents classements par des organismes respectable jusqu'à la crise bancaire récente comme UBS, des boîtes de conseil comme Mercer ou ECA, ou des bons journaux comme The Economist, l'hebdomadaire libéral britannique, ben les classements sont absolument pas les mêmes. C'est assez drôle, ça, je voulais vous le livrer ainsi, c'est quand on parle du monde, on a une idée de palmarès comme ça, que l'on lit dans la presse en disant, bah tiens, en fait pas du tout. Alors c'est lié à des raisons de méthode, hein, mais en même temps... Bon, au fait que la vie chère, c'est individuellement que nous la jugeons en fonction de nos besoins. Bon, passons. J'en viens aux opinions. et aux aspirations urbaines en général dans le monde. Cette fois-ci, donc en m'appuyant sur une enquête dont Sylvain Allemand a dit un tout petit mot, qui a été réalisée par Ipsos pour le compte d'un grand ensemblier qu'est Veolia, auprès d'un échantillon de 700 à 800 personnes dans chacune de 14 grandes villes qui vont pour l'Europe de Lyon à Paris en passant par Londres, Berlin, Prague, à l'Asie, Tokyo, Shanghai, Pékin, les États-Unis, Chicago, Los Angeles, New York, et pour des villes du Sud, deux seulement, Mexico et Alexandrie. Alors c'est une enquête relativement originale. Sur le plan méthodologique, elle a été passée par Internet. Je vous le dis immédiatement, il y a évidemment un biais immédiat, c'est que sont interrogés les internautes et pas tous les habitants de la ville. Et donc, par rapport à tous mes propos sur les bidonvilles, il y a dans l'échantillon une part extrêmement faible de cet élément extrêmement important dans ces villes comme Alexandrie ou Mexico. Mexico dont on dit aujourd'hui que la population diminue, mais en même temps dont on nous dit qu'on ne sait absolument pas combien de personnes y vivent dans ce qui est baptisé là-bas l'autoconstruction. C'est-à-dire que vous avez de gigantesques espaces de périurbanisation autour de Mexico qui ne sont pas compris juridiquement comme étant de Mexico et comme étant de la responsabilité de Mexico, mais où vivent, aiment et travaillent et s'entretuent tout de même une partie de la population mexicaine. Mais pourquoi cette centration sur l'Internet, c'est que ça donne aussi une population urbaine un rien homogène qui a accès aux mêmes services. Alors, que dit cette population, hein? Elle dit, c'est ce que je vais développer en 5-6 minutes, avec quelques petits graphiques évidemment illisibles ici, elle dit combien elle apprécie de vivre en ville. Ce qui, je vous le disais, est contre-intuitif par rapport à notre sentiment français qui est que la ville serait d'abord un espace de perdition, de relégation, de dangerosité, de stress, etc., etc. Ce que l'on s'aperçoit dans ces 14 villes, c'est que, pour vous prendre quelques items, bien, plus de 8 personnes sur 10 considèrent que la ville donne ce sentiment de liberté que la poésie allemande au Moyen-Âge mettait en avant. C'était la ville rend libre. C'est ainsi que la poésie allemande a commencé à parler de la ville. Note également cette évidence, nos internautes interrogés, que pour bien vivre en ville, il faut bien gagner sa vie. Je pense que même pour vivre en mode rue, si on avait posé la question sur pour bien vivre aujourd'hui, il faut bien gagner sa vie, ils auraient dit oui aussi. Notation importante pour ce qui concerne nos préoccupations de développement durable, pour bien vivre la ville, plus des trois quarts des personnes interrogées, avec des différences selon les villes, mais en tout cas si on agrège les résultats, considèrent qu'elle doit être respectueuse de l'environnement. Sujet crucial, parce que la ville, pour certains sociologues, et c'est vrai, est synonyme d'exaspération mutuelle. Autant dans le rural, avec ses solidarités vicinales, on se connaît tous, donc ceux qu'on veut pas voir, on leur dit pas bonjour dans notre coin, et ceux qu'on veut voir, on les salue. Autant dans la ville, ce à quoi on est confronté, c'est en permanence avoir des autres que on n'a pas vraiment nécessairement envie de voir. Ça, c'est le côté négatif de la force, comme on dit dans la Guerre des Étoiles. Mais le côté sympa de la force, c'est que la ville permet de rencontrer les gens facilement. Ces facilités du contact sont mises en avant dans toutes les villes interrogées, naturellement. Et ce qui arrive en dernier, c'est cette idée selon laquelle la ville nourrit des sentiments d'angoisse, de solitude et d'anonymat. Donc, une opinion à l'égard de l'urbain, à l'égard de la ville, qui est majoritairement positive, que l'on retrouve sur d'autres points. On cite des sujets et on demande aux gens s'ils sont d'accord pour voir si cela correspond à leur idée de la ville. On leur a demandé de noter ce qu'étaient leurs trois principales réponses. Au fond de la salle, vous pouvez voir ça. En vert, ce sont les aspects positifs, et en rouge, ce sont les aspects négatifs. Bon, ce que les urbains apprécient, c'est la commodité des déplacements, surtout d'ailleurs l'attachement historique qu'ils peuvent avoir à la ville, la convivialité urbaine, le plaisir, l'excitation même de vivre en ville. Et ce qu'ils mettent en avant cette fois-ci de manière négative, c'est le stress, la saturation. C'est-à-dire qu'en fait, les urbains, ce qu'ils aiment bien, c'est la possibilité de se déplacer. Ce qu'ils détestent, c'est les bouchons. Hein. Mais hey, ouais, mais ça après, question cruciale pour la gestion urbaine, pour la voirie et les déplacements, et question cruciale, vous le savez, de développement durable. Mais là, ce que je dis ici, enfin, ce qu'amène cette enquête, c'est qu'il y a des sentiments positifs qui prime sur les sentiments négatifs à l'égard de la ville. Bon, je pourrais vous en amener plein d'autres encore, je vais passer vite. Oui, vous voyez, ça c'est rigolo. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la ville dans laquelle vous vivez? Pour plus du tiers des gens interrogés, agrégés encore une fois sur les 5 continents, c'est les facilités de déplacement qui arrivent au premier rang. Qu'est-ce que vous détestez le plus? Ben, c'est les embouteillages. Hein. C'est ce que je vous disais comme paradoxe qui n'en est pas véritablement un. Alors on peut tenter de faire des classements de villes avec ce type d'enquête, avec des questions plus que d'opinion légère sur sa satisfaction et sa projection dans l'avenir. On demande aux gens s'ils souhaitent quitter la ville dans laquelle ils habitent, ou mieux encore, des sujets de développement durable, d'avenir, souhaiteriez-vous que vos enfants grandissent dans la ville dans laquelle vous habitez ? Alors, c'est rigolo parce que il y a une infrastructure très nette liée au problème de congestion, de pollution et d'insécurité, c'est qu'il n'y a qu'une ville dans laquelle les gens souhaitent répondent principalement qu'ils souhaitent s'en aller, c'est Mexico. Pour des raisons différentes, vous avez des gens qui considèrent que ils souhaitent voir leurs enfants élevés dans la ville dans laquelle ils se trouvent. Alors Lyon au premier égard pour plus de 70% des répondants, et pour moins de la moitié des répondants, mais pour des raisons très diverses, Mexico, problème de qualité de vie en général, Londres, problème de coût de la vie en particulier, les Londoniens et les habitants de Mexico ne souhaitent pas voir élever leurs enfants dans ces villes. Bon, on pourrait prendre les 14 villes, là je vous ai dit quelques mots sur la moitié d'entre elles. Alors, ce qui est marrant aussi, même si les enquêtes d'emploi du temps plus sérieuses permettent d'entrer dans des détails plus importants que le simple résultat de ce sondage, là ce que je vous présente ici, en crobar pour ceux qui arrivent à les lire, et à l'oral pour tout le monde, c'est que on a demandé aux habitants de ces 14 villes quelle était la part de leur temps consacrée chaque jour à différentes activités, le travail ou l'éducation, les tâches domestiques, les loisirs, le sommeil, les déplacements ou les responsabilités administratives. On leur a demandé ce qu'était actuellement leur situation et dans l'idéal, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient. Alors, ce qui est assez intéressant là, c'est que ça se voit même du fond, c'est que globalement la répartition est globalement la même. Ce qui nous amène à dire que le mode de vie urbain est quand même quelque chose qui s'internationalise. Hein, c'est une idée force de la théorie urbaine qui est que, en réalité, nous serions tous désormais urbains car ce sont nos modes de vie, nos aspirations, nos contacts, nos modes de communication qui, où que nous nous trouvions, nous font nous ressembler, et ce, un peu partout dans le monde, cette enquête en témoigne. Donc le truc rigolo dans cette enquête, c'est que il y a le total en heures de sommeil dans la semaine, et on observe que dans le monde, en moyenne, les gens souhaiteraient dormir une heure de plus, sauf à Paris où ils veulent dormir 2 heures en plus, vous voyez, hein, et à Lyon c'est qu'une heure en plus. Bon, alors, ouais, des résultats de cette enquête que l'on peut éreinter de manière sérieuse ou utiliser de manière appropriée, il ressort que la ville idéale, selon les différentes qualités qui sont celles mises en avant dans chacune des villes qui ont été enquêtées, c'est la propreté de Los Angeles. Donc on est naturellement là avec cette population d'internautes riches qui répondent. C'est le cadre de vie de Sydney et de Chicago. Vous avez des villes qui sont sur océan ou sur lac. La taille humaine de Lyon, mais là il y a un effet de structure, c'est la plus petite des villes de l'échantillon, etc. etc. Donc c'est une ville impossible, et c'est une ville qui se caractérise par ce qui est mis en avant par ceux qui s'y trouvent actuellement. Bon, oui, ça c'est la qualité de vie, comme je vous l'ai dit pour les questions de prix, est quelque chose qui est testé, enquêté par les grandes banques et les grands cabinets de conseil internationaux, ce qui donne des palmarès. Pourquoi d'ailleurs sont ces grandes banques et ces grands cabinets de conseil qui le réalisent? C'est parce qu'ils ont des expatriés un peu partout dans le monde et qu'ils leur demandent des informations précises sur le coût du panier de la ménagère ou sur leurs appréciations plus objectives à l'égard de différents éléments comme la stabilité politique, le coût du logement, etc., etc. Et ceci permet de faire des classements sérieux, parce que ça permet de corriger les rémunérations en fonction des déficits de pouvoir d'achat ou des déficits d'aspiration de vie des uns et des autres. Donc c'est pour les classements de la qualité de la vie quelque chose qui tient un peu plus debout. Alors il y a un score qui est fait pour New York qui est de 100, et on essaie de classer les villes en fonction de New York, au-delà des chiffres absolus, hein, qui place au premier rang les villes suisses à 110, c'est-à-dire 10% au-dessus de New York, et Bagdad, dernière ville du monde, à 14,5, en raison d'événements qui ne vous ont pas échappé. Et à partir du moment où on cite Bagdad, vous voyez, l'ordinateur s'éteint, j'en suis désolé. C'est une faute diplomatique ici. Ah, c'est peut-être qu'il n'y a plus de piles dans l'ordinateur, non? Ah bon? Flûte alors. Bon, faut pas que je me teste quand même tout de suite, Sylvain. Non, j'ai encore noté que je pouvais asséner quelques résultats. Sachant que justement, je voulais passer à la question du développement durable. Et bureaucratiquement, politiquement d'ailleurs, vous parlez des manières de mesurer le développement durable en ville. Et ce, à l'échelle mondiale, européenne et française. Car les différentes enquêtes et différents systèmes de données, batteries de données que j'ai pu utiliser jusqu'ici, nous permettent des informations sur ce point. Si on prend l'enquête Veolia que j'ai employée, on observe à des degrés très divers, c'est vrai, mais tout de même dans chacun des pays, donc dans chacune de ces villes, qu'une majorité de la population, ça paraît anodin dans le cas français, ça l'est moins dans le cas mexicain, australien ou égyptien, considère que pour bien vivre en ville, il faut vivre dans une ville qui a une politique en matière d'environnement. Il y a 10-15 ans, c'était inenvisageable, ça ne se concevait même pas. Vous observez par exemple que pour bien vivre sa ville, il est indispensable qu'elle respecte l'environnement. Ceci est très présent aux esprits des Parisiens, des Lyonnais, des Pékinois et des habitants de Shanghai, puisque pour plus de 9 habitants de ces villes sur 10, ils sont en accord avec ce point. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans des villes qui sont jugées tout de même de qualité de vie et de respect de l'environnement, tout simplement parce qu'elles vivent dans l'environnement, type Berlin ou Chicago, cette idée est moins prononcée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à la fois les Chinois et les Français craignent vivement pour l'environnement en ville. Chiffres sur l'Union européenne, il y a des enquêtes dites eurobaromètres qui sont faites, c'est des enquêtes d'opinion qui sont faites dans les 27 pays de l'Union désormais. Il y avait une question qui était assez intéressante, je trouvais, moi, fin 2007, qui était: quel est pour vous le principal problème relatif à l'environnement? Il y avait plein de choses, hein, la protection de la nature, les catastrophes causées par l'homme, les tremblements de terre, le changement climatique. Eh bien non, c'est pas ça le premier problème dans la gradation pour les Européens, c'est la pollution dans les villes. Hein. Pour près du quart des Européens, évidemment ceci étant différencié selon les urbains, les ruraux et selon les Lituaniens, les Portugais, les Maltais ou les Chypriotes, voire les Français, il y a une variation. Mais à l'échelle européenne, voyez combien la préoccupation de l'environnement est rattachée à la question de la pollution urbaine. Il y a hétérogénéité de ces perceptions. Je ne vais pas vous commenter ce graphique qui est une vraie bouillie d'ailleurs, mais qui vu de loin encore vous donne des idées des couleurs qu'on peut trouver sur les ordinateurs. Ce sur quoi j'insiste là, c'est que quand on a une affirmation du type « la pollution de l'air est un grave problème », les répondants, qui sont les répondants des capitales là, des 27 pays de l'Union, même de plus que de l'Union, puisqu'il y a même Ankara, c'est ainsi, c'est pas de ma faute, là c'est ainsi, mais il y a aussi Zagreb, eh bien, n'ont absolument pas la même idée du phénomène. Quand à Athènes ou à La Valette, nous avons des gens qui sont confrontés, certainement à Athènes, à La Valette, j'en sais trop rien, à des problématiques de pollution de l'air gravissimes, ils considèrent que c'est un problème pour eux actuellement et pour l'avenir. Dans d'autres contextes très différents, qui vont de Berlin, dont j'ai déjà dit combien la qualité de vie était mise en avant, à Ankara, justement, en passant par Vienne ou par Luxembourg, eh ben, les urbains affirment que majoritairement que ça n'est pas un problème. Donc hétérogénéité des perceptions, d'où hétérogénéité des solutions. Alors je vous avais dit que je vous parlerais du monde, de l'Europe et de la France. On arrive un tout petit peu à la France sur ces questions d'environnement et de développement durable qui prennent de plus en plus d'importance. Grenelle en témoigne. Vous avez des enquêtes barométriques qui sont menées, des enquêtes d'opinion. Barométriques, il faut entendre par là qu'elles sont menées régulièrement avec les mêmes questions, les mêmes échantillons. Et on a une série de problèmes. La maladie, la pauvreté dans le monde, l'insécurité, la violence, le chômage et la dégradation de l'environnement. En 91, la question de la dégradation de l'environnement se classait au 8e rang. 95, pareil. 99, pareil. C'est le dernier rang. Hein. 2000, 6e. 2003, 6e. 2007, 9e. Et l'an dernier, la question de l'environnement, de sa dégradation, s'est placée au 3e rang. Toujours derrière la maladie, qui est la première préoccupation française. Toujours derrière la pauvreté dans le monde, qui a un lien avec la dégradation de l'environnement, et toujours derrière la violence. Alors, j'ai pas les résultats pour 2009, on s'en fiche, mais ça ne doit pas avoir beaucoup bougé. Mais c'est là pour vous souligner la progression de l'intérêt pour les préoccupations environnementales en France, et ce beau paradoxe qui apparaît là avec la même enquête sur ce nouveau graphique, où vous voyez simplement au fond de la salle une montée progressive et une chute brutale. C'est que si la préoccupation pour l'environnement progresse en France, en revanche, l'idée de payer plus de taxes affectées à la défense de l'environnement s'écroule. Vous voyez un beau paradoxe pour les politiques publiques locales, singulièrement liées à tout ce qui peut être assainissement de l'eau ou gestion des déchets. Mais pour vous rassurer, c'est pas une ambiguïté à la française, c'est globalement, fin 2007, début 2008, il y avait une formidable aspiration, en période de croissance toujours et de diminution du chômage, à payer moins de taxes. Mais tout de même, préoccupation majeure lorsque l'on se soucie d'environnement. Après le monde, l'Europe et la France, un petit coup de terre déformée. C'est encore une fois le globe que vous voyez ici, hein, avec un cartogramme particulièrement clair. C'est là la part des déchets municipaux mondiaux qui sont recyclés sur chacun des territoires. D'ailleurs, selon les sources qui ont été à l'origine de la construction de ce diagramme, vous avez moins de 10% à l'échelle mondiale des déchets des villes qui sont recyclées. Ce que vous observez, c'est que les États-Unis, même s'ils ont l'empreinte écologique la plus lourde, sont en tête, mais c'est en tête d'une course relative sur ce dossier, suivi en cela par l'Union européenne, et le reste du monde n'existe pas sur ces dossiers. Bon, l'empreinte écologique, vous avez déjà dû en parler un milliard de fois. On observe que l'empreinte écologique américaine, naturellement, est extrêmement problématique, mais ce sujet que vous connaissez certainement pour avoir déjà débattu de développement durable, là apparaît extrêmement clairement sur l'inégalité de du mode de vie américain qui pollue l'humanité. Alors, dans les 6-7 minutes ou 5... C'est ça qui demeure, si, c'est très bien. Après, vous avez beaucoup parlé des bidonvilles, en vous montrant l'importance du phénomène et ayant tout de même à l'esprit que l'on pouvait, par volontarisme, imaginer que, avant d'être des sous-villes, ça devait pouvoir être considéré comme des sas vers la ville. Comment peut-on qualifier la ville durable, dont tout le monde nous parle, sans trop de définition, même s'il y a des chartes d'urbanistes ou d'architectes sur la question? Eh bien, il y a une multitude de données qui existent, il y a une multitude de définitions, et pour la Commission européenne, un rapport avait été rendu sur la soutenabilité environnementale d'une trentaine de villes, avec 25 indicateurs, qui sont ici présentés en anglais. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez l'émission de gaz à effet de serre, certes, vous avez les problématiques acoustiques, les problématiques de bruit, vous avez les problématiques de gestion des déchets municipaux, vous avez aussi la part des passagers passant par du transport public. Le choix de ces critères, le choix de ces indicateurs, le choix de ces variables est sujet à des polémiques considérables, hein. Vous imaginez bien que les constructeurs automobiles ne sont pas d'accord pour soutenir que le passage par les transports collectifs serait la voie essentielle du développement durable. Mais mieux que cela, ils prennent les taux de participation aux élections. Alors, comme nous sommes en territoire de démocratie participative, évidemment, dans le Poitou-Charentes, on considérera que c'est fondamental, ça n'est pas toujours amené comme une dimension canonique du développement durable. Et mieux que cela, même si nous sommes en pays de tradition féministe, il y a comme indicateur de la durabilité des villes la part des élus qui sont des femmes. C'est assez intéressant parce que vous voyez combien la durabilité s'apprécie à partir d'une hétérogénéité de variables qui n'entretiennent aucune relation. car il n'y a pas de corrélation, a priori, hein, entre la féminisation d'un conseil municipal et même le taux d'abstention, voire le transport public. Alors peut-être que vous pourriez réagir, et c'est pas nécessairement la corrélation la plus fausse que j'avance là. Alors quand on a toutes ces variables, on peut faire des villes. Hein, on peut noter les villes les unes par rapport aux autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Commission européenne le fait. Hein. Et ce ne sont pas des notations assorties de punitions ou de célébrations. D'ailleurs, c'est un des mécanismes de l'intégration européenne. On montre et on critique. Vous avez le niveau moyen qui apparaît en bleu ici. Et là, vous avez le cas de la ville de Hanovre qui semble se distinguer positivement par rapport à la moyenne. Alors là, je vous ai montré un truc compliqué. Il y a un truc plus simple qui s'appelle l'audit urbain au sein de l'Union européenne où vous avez 75 villes, dont Rennes, mais pas Poitiers, qui sont régulièrement enquêtées sur une série de variables qui comprennent la part des transports publics, le niveau de pollution de l'air, les offres d'emploi, les coûts du logement, l'intégration des populations étrangères, la responsabilisation des pouvoirs publics sur les questions de développement durable et le niveau de sécurité. Ceci donnant la ville durable selon l'enquête d'audit urbain. Et là, vous avez une moyenne européenne qui est toujours en bleu, c'est heureux, et vous avez la possibilité, avec ces petits crobards, de situer une ville, ici la Belgique. Là, Rennes, et si je l'avais pu, j'aurais pu vous montrer Poitiers, mais c'est un exercice que vous pouvez faire dans le cadre du Conseil de développement durable. Alors, responsable, ah pardon, ou soutenable, c'est quel est le terme, pardon, Conseil de développement responsable. Ouh, j'ai fait une faute. Bon. Alors, tenant parfaitement le temps qui m'était imparti et souhaitant ne pas vous avoir trop assommé, ouvrant ainsi la discussion, je vais faire quelques remarques conclusives. Tout d'abord, pour vous donner une autre image de l'urbanisation mondiale, on va passer près de 2 heures ensemble. Ceux qui sont arrivés vers 6h15 et ceux qui partiront vers 8h15, si je me trompe pas, pour vous montrer que je suis bon en maths, ça fait à peu près 2 heures. Nous avons 1 million d'urbains en plus par semaine sur la Terre. Ça veut dire qu'à peu près en 2 heures, dans ces 2 heures de temps dont je vous ai parlé, il y a à peu près 15 000 habitants urbains qui sont arrivés sur Terre. Et sur ces 15 000, vous en avez 90% qui sont dans le monde en développement. Alors, dans le cas de Poitiers, il y a peut-être un habitant en plus, hein, sur la journée, mais pas dans les 2 heures, et encore. Hein. Et je terminerai par la reprise du sujet d'une ampleur considérable qui m'était donnée, pour vous dire que quand on parle d'urbanisation et de ville, tout ceci oscille sempiternellement entre deux représentations de la ville et de la vie urbaine. Ceux des avantages de la vie urbaine et de l'urbanisation que l'on imaginerait être les seuls avantages des classes aisées, ça n'est pas si vrai. C'est-à-dire que, à mesure de l'amélioration de la qualité de vie des classes aisées, il y a un effet de ruissellement, comme on dit en économie, qui va vers les classes défavorisées. C'est pour ceci que je suis de ceux, je ne participe pas beaucoup, mais en tout cas avec les agences onusiennes qui ont révisé leur jugement sur l'urbanisation, qui considèrent que même la bidonvillisation peut être un phénomène positif à la condition expresse que les moyens soient donnés pour transformer la gouvernance de ces situations, pour assurer la sécurité des citoyens et surtout peut-être pour assurer dans ces contrées la libération de la vie féminine. Alors ça, c'est le côté positif, comme d'habitude. Il y a tout de même, ne le cachons pas, derrière mon affirmation optimiste, une masse de données, une masse d'informations, une masse de faits, au-delà des tendances à venir que l'on peut chercher à voir positivement, qui sont extrêmement inquiétantes. Pour vous donner une seule idée d'une ville importante du monde, qui est Rio, hein, sur les célèbres plages de Copacabana, tout est beau, on danse, et ce serait une société multiethnique qui fonctionnerait bien. Rien que dans la ville de Rio, vous avez 6000 morts par an. Ces 6000 morts sont liés au trafic de drogue et d'armes dans les différentes favelas qui sont auto-organisées. 6000 morts, ça nous dit rien en France. Sinon, c'est le nombre de morts par homicide, enfin un tout petit peu plus en France, sur le territoire national, pas dans une seule ville. 6000 morts, c'est 5 fois plus que le nombre de morts américains en Irak. Donc, quand je vous dis qu'on peut avoir une opinion optimiste ou un regard optimiste sur l'urbanisation, ce qui se passe actuellement relève tout de même mondialement de globalement la tragédie. Voilà tout ce que je voulais vous dire en une heure. J'ai conscience que j'ai abordé beaucoup de choses avec beaucoup de graphiques et beaucoup de chiffres, et donc je suis à votre disposition maintenant pour l'exécution. Ouais, bah oui. Au bout d'un moment, ça soupit au bout d'une heure.
En tout cas, non. Merci Julien pour cette performance que vous avez pendant une heure et donc c'est tout cœur vive à travers le sang vous a parlé sur Poitiers, mais en fournissant des éléments que pour les acteurs, notamment du conseil de développement responsable, pourraient s'approprier pour essayer de faire de la marque à l'échelle de la population. Pour ma part, juste une petite remarque avant de recueillir les questions de la salle. La première, elle concerne, c'est plus une remarque de la réflexion que vous inspirez, la diapositive sur la cité de la ville des Arts. Je ne sais pas si vous pouvez d'ailleurs la remarquer à part. Ah non, ça c'est la.
Ah oui. Je voulais la ville des
Arts. Je faisais la réflexion suivante, peut-être un peu naïvement.
Ah oui.
Voilà, c'est ça. Il suffirait finalement à l'animation de Poitiers de travailler ces différents éléments. Et en fait, je me suis fait la
L'objectif ou l'enjeu pour une agglomération de Poitiers, c'était éventuellement de travailler sur certaines des caractéristiques de la ville durable, mais de veiller à assurer à ses habitants ou ceux qui y travaillent l'accessibilité à d'autres métropoles qui assureraient les autres caractéristiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Et une autre réflexion portait sur le fait que une partie de ce que vous nous avez donné à voir résulte d'une enquête commanditée par Veolia, dont on comprend très bien l'intérêt des données fournies, ne serait-ce que pour mieux valoriser son activité. Veolia, est-il besoin de le rappeler, est un opérateur dans l'assainissement, etc. Mais au-delà du cas de Veolia, je voulais savoir, c'était ma réflexion, mais finalement c'est une question, si ça témoignait pas d'une prise de conscience chez des entreprises, petites ou grandes, du fait que, quelque part, elles étaient acteurs de la ville, a fortiori de la ville durable, à travers les services qu'elles sont à même de procurer, comme Veolia, mais aussi, ne serait-ce qu'à travers le fait qu'elles créent des emplois, etc. Mais est-ce que c'est un mouvement, une prise de conscience que vous avez pu déceler à travers ce travail ou d'autres études ? Alors, je peux vous laisser le temps de la réflexion, vous pourriez y répondre pour que je puisse, au fond, prioritairement prendre les questions de la salle, s'il y en a des questions ou des témoignages ou des demandes de précision. Sinon, vous répondrez à ma question pour commencer. Il vous suffit, on est entre nous, il vous suffit de lever la main. Voilà, comme le fait le monsieur. Je ne sais pas. Ah ben voilà, un micro vient vers vous. N'hésitez pas à vous présenter.
Oui, Philippe Quénin, direction de l'agriculture. Juste une précision dans la définition que vous nous avez présentée sur le bidonville. Parce que les critères portent plutôt sur un type d'habitat, que je ferai référence à l'habitat indigne ou insalubre. Si on veut parler de bidonville, c'est plutôt une concentration dans un quartier ou d'une ville. Alors, est-ce qu'il y a un critère de concentration spatiale ?
La réponse est facile, c'est non, pour le moment. Mais ce serait judicieux. Maintenant, ce qui est crucial dans ce que je vous ai raconté, c'est que de ces statistiques, n'imaginez pas que c'est une vérité à la centaine de millions près. Ce sont ce que recensent les appareils statistiques ghanéens ou cambodgiens, dont vous pouvez imaginer qu'ils sont dans un état de délabrement ou de faiblesse d'infrastructures poussée. Donc par bidonville, ils repèrent non pas avec des inspecteurs qui vont faire comme pour un recensement un tour qui serait exhaustif du territoire national. Ils vont dans les périphéries ou dans les centres-villes, là où il y a concentration d'individus, repérer à la louche le nombre de personnes qui vivent dans ces concentrations. Il n'y a pas donc de définition, d'éléments liés à la concentration dans la définition, mais c'est évidemment dans les concentrations urbaines qu'ils vont chercher les problèmes.
Question, interrogation, monsieur ? Je laisse Virginie le soin. Ben voilà, parfait.
Oui, bonsoir, Jean-Louis Diguet, conseil de développement de Châtellerault. J'ai une petite question concernant en fait les bidonvilles, enfin, si on peut appeler ça comme ça, plus exactement sur la ghettoisation. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas du tout abordé, c'est en fait la sociologie de ces implications, en quelque sorte. Parce que il s'avère quand même que bien souvent les gens se retrouvent dans des endroits parce qu'ils sont de la même ethnie, ils sont de la même, etc. Et parfois même c'est pas un bidonville, ça peut très bien être un quartier dans une ville qui se ghettoise un petit peu, et on peut en parler à Châtellerault.
Je pense que vous faites. Ah bon, carrément.
C'est une tendance naturelle de la ville que de se ghettoiser, si par ghettoiser on entend ghettoisation par le haut et ghettoisation par le bas, c'est-à-dire qu'on cherche à être le plus possible près de ceux qui nous ressemblent et aussi de ceux auxquels on souhaiterait ressembler. Ça, c'est la ghettoisation choisie, si vous le souhaitez. C'est certains quartiers bien mis en avant ces temps-ci, car habités par une chanteuse célèbre dans Paris. Enfin, vous voyez, c'est la Villa Montmorency où habite Carla Bruni, qui est une résidence fermée au sein de Paris. C'est l'émergence que l'on cherche à repérer en France des gated communities, c'est-à-dire des villes fermées à réglementation fermée, qui existent peu en France, mais qui sont extrêmement nombreuses et rassemblant une part des populations urbaines américaines ou sud-africaines considérable. Si vous voulez, la ghettoisation sud-africaine donne au Cap, par exemple, des bidonvilles qui donnent sur la plage, une autoroute qui sépare, et de l'autre, des résidences fermées armées qui surplombent les plages, où de toutes les manières, les gens ne vont pas se baigner parce qu'il fait froid. Alors, il y a la ghettoisation choisie, qui est celle à laquelle nous aspirons tous, finalement. Je force le trait en prenant le terme de ghettoisation que vous avez employé. Et il y a la ghettoisation subie, qui toujours fait que on cherche tout de même à s'organiser avec ceux dont nous sommes proches. Ça peut être, oui, ethniquement, la cartographie historique de Chicago, tout comme aujourd'hui des rapprochements un peu partout dans le monde, entre gangs, entre familles, entre proches, issus de l'immigration ou telle histoire. Ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de ghettoisation ou de ségrégation, c'est que c'est par le haut et par le bas, et que ça nous concerne tous. La ségrégation, c'est pas un phénomène collectif qui nous échappe, nous y participons tous d'une manière ou d'une autre.
Question. Alors, je vais poursuivre l'échange, la réflexion sur les bidonvilles. A priori, c'est ce que vous avez fortement suggéré à travers votre exposé. C'est un phénomène qui concerne avant tout les pays du Sud. Mais est-ce que c'est une question qui me vient à l'instant, j'en assume peut-être un peu le côté un peu approximatif, mais est-ce qu'on pourrait parler d'une sorte de bidonvillisation par le haut, en évoquant par là ces quartiers qui existent dans nos propres agglomérations et qui sont un peu en déshérence. Alors, ça rejoint un peu l'idée de ghetto, mais je pense à ces quartiers dans des zones de grands ensembles qui sont presque abandonnés à eux-mêmes, qui deviennent, dit-on, des zones de non-droit. Est-ce que c'est une tendance massive ou propre à certains contextes urbains ? En disant ça, Julien, je précise que c'est en tout cas un constat que j'ai pu faire à travers une enquête sur les zones franches urbaines, ouais, que j'ai été amené à visiter à travers la France, et j'ai été frappé de voir combien certains des quartiers qui relevaient de ces zones franches étaient proprement en déshérence, abandonnés, etc., avec retrait des services publics. Alors, on ne peut pas parler de bidonvillisation telle qu'elle se produit dans les pays du Sud, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un peu de cet ordre-là ?
Si on prend ces critères de sécurité d'occupation, s'il y a squat, abandon par le bailleur, en effet, il y a de la suroccupation, du surpeuplement, selon le terme INSEE, il y a quand même la disponibilité d'eau et et les contacts d'une façon ou d'une autre, quand je dis d'une façon ou d'une autre, c'est licite ou non, avec les différents réseaux. C'est pas pour célébrer le truc. En revanche, ce qui est vrai, c'est que se développe en France, et il suffit de prendre le train pour regarder et de regarder par la fenêtre, c'est des campements tels que nous n'en imaginions plus après avoir vu cette période de résorption des bidonvilles, le dernier célèbre étant à Nanterre, et qui aujourd'hui, sans que l'on puisse en avoir une estimation chiffrée quelconque, eh bien ponctue le territoire en France et dans d'autres grandes villes. Mais sur bien des points, c'est très compliqué d'avoir des informations de qualité. Si on prenait une estimation de ces campements de nomades, etc., qui serait la taille de la population rom, on peut en discuter. La taille de la population rom, elle varie selon les estimations entre 4 et 12 millions de personnes dans l'Union européenne. Mais maintenant, même si on prend les estimations hautes, ça n'est rien, l'Union européenne, au regard du milliard de personnes qui vivent dans ces situations.
Monsieur, alors je vais Virginie, je peux prêter mon micro pour vous épargner des déplacements sur longue distance.
Il est polyvalent, hein.
Oui, bonsoir. Moi, je me pose justement la question, Colette Saunier. Je travaille à EDF. Je me pose la question de est-ce que, donc j'ai bien noté que la bidonvillisation, c'est essentiellement centré sur le sud, et est-ce qu'il y a une forme de relation, est-ce que ça a été mesuré, étudié, avec les phénomènes migratoires, parce que si au sud, effectivement, ça se développe de cette façon-là, on peut être tenté de se dire que les gens vont aller voir ailleurs. Alors peut-être pas les mêmes, mais bon, quels sont les mouvements qui peuvent être prédictibles?
Alors, déjà sur la situation de l'immigration, on a des chiffres en France qui, vous le savez, donnent lieu encore une fois à des bagarres nucléaires entre démographes. Le grand point, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est terrible. Mais sur l'avenir, la pression démographique du Sud, qu'elle soit issue de zones urbaines déqualifiées, que l'on baptise bureaucratiquement bidonville ou non, c'est évidemment la pression considérable sur la vieille Europe. Ouais. Enfin, je vous réponds clairement là-dessus, parce que c'est un sujet qui est sensible.